Jean-Michel Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Sénateur des Hautes-Alpes, merci de nous accueillir en ce vendredi du côté du Congrès des maires qui sont venus nombreux. On parlera des inquiétudes, bien sûr, des maires dans quelques instants. Tout d'abord et rapidement, Jean-Michel Arnaud, Michel Barnier, Premier ministre, a donc formé son nouveau gouvernement avec des ministres Renaissance, des ministres LR. Pas de grosse prise de guerre du côté de la gauche. On ne peut pas vraiment dire que la leçon a été retenue de la part d'Emmanuel Macron.
Vous savez, aujourd'hui, la question n'est pas de savoir ce que pense Emmanuel Macron de la situation politique du pays, c'est de savoir ce que veulent les Français et ce que veulent les parlementaires, puisque on est dans une situation où, probablement depuis très longtemps, peut-être même pour la première fois depuis 1965, le jeu se joue au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc ce qui est important, c'est de trouver des voies de passage pour que les textes nécessaires d'un point de vue législatif pour améliorer la vie des Français, sur lesquels ils se sont exprimés, sur les questions de logement, sur les questions de pouvoir d'achat, puissent passer.
Oui, mais avec cette dissolution de l'Assemblée nationale et cette latence qui a succédé après au sein du gouvernement, l'Assemblée nationale a presque été rendue obsolète, presque inutile pendant plusieurs mois.
Elle n'a pas été inutile parce que l'été, habituellement, il n'y a pas de session. Donc la session ordinaire commence au Sénat comme à l'Assemblée nationale le 2 octobre. Et donc la vérité des prix se jouera à partir du 2 octobre avec la motion de censure probable qui sera déposée par certains groupes, votée ou pas votée. Et puis la capacité que nous aurons à démontrer que dans la situation d'instabilité institutionnelle dans laquelle nous sommes, il puisse y avoir des choses de fait au moins jusqu'au mois de juillet l'année prochaine. Dans l'intérêt des Français, parce que les Français, au-delà des questions politiciennes, des questions partisanes, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir une vision pour les prochains mois et au minimum un budget voté pour que l'État puisse fonctionner, que les services publics puissent fonctionner et que les politiques publiques, notamment en accompagnement des financements des collectivités territoriales ou des acteurs privés venant de l'État, puissent se mettre en œuvre.
Là où vous attendez des réponses et là où tout le monde attend des réponses dans les Hautes-Alpes, c'est au niveau de l'agriculture. 150 élevages touchés par la fièvre catarrhale ovine de type 8. Le sérotype de type 3 qui pourrait aussi s'installer, puisque les Hautes-Alpes sont en zone hein, pratiquement régulée. Vous avez lancé un appel du côté de l'État, un appel à prendre en considération cette agriculture. Aujourd'hui, cet appel, il est entendu parce qu'on arrive en plus à une pénurie de vaccins. Là.
Bon, d'abord, ce qui est important, c'est que tout le travail qui a été fait par Marc Fesneau sur la loi de programmation pluriannuelle de l'agriculture puisse être repris rapidement. En tous les cas, c'est une priorité de la majorité sénatoriale, du groupe centriste auquel j'adhère, que de mettre en haut de la pile la reprise du travail sur la PPL, enfin sur la programmation pluriannuelle, la loi de programmation pluriannuelle de l'agriculture, parce que je n'oublie pas, au-delà de la fièvre catarrhale dont vous parlez, je n'oublie pas surtout ce que nous avons vécu au printemps, avant la dissolution, avec le monde agricole. Un certain nombre d'engagements avaient été pris qui devaient se traduire
et plus rien.
Législativement par ce texte qui n'a pas pu être étudié parce qu'il y a eu dissolution. Il faut reprendre ça immédiatement. Ensuite, sur la situation de la fièvre
catarrhale
ovine dans les Hautes-Alpes, il y a deux sujets. Un, il faut qu'on ait les financements nécessaires pour accompagner tous les efforts de vaccination, pour pouvoir acheter des vaccins qui ne sont pas aujourd'hui suffisamment disponibles sur le marché, parce qu'ils sont cannibalisés, si vous me permettez l'expression, par d'autres acheteurs qui ne sont pas des acheteurs français. Donc il faut qu'on travaille là-dessus, d'une part. Et d'autre part, il faut rapidement, ça a un coût budgétaire, mais il faut l'analyser et le défendre auprès du ministère, que le laboratoire départemental vétérinaire des Hautes-Alpes puisse être enfin agréé pour pouvoir faire les analyses en proximité et faire en sorte de gagner du temps, parce qu'on va descendre bientôt les bêtes de la montagne et il y a effectivement un grand nombre de vaccins à prodiguer aux bêtes qui vont descendre pour éviter une propagation de cette maladie particulièrement pénalisante pour les bêtes d'abord, mais surtout pour le modèle économique des éleveurs.
Oui, le pic de contamination qui, on le rappelle, attendu pour le 15 octobre, justement, vous le disiez, quand les troupeaux seront redescendus des alpages. Dans le sujet agriculture, c'est aussi l'Europe qui a donné son feu vert, certains disent enfin, pour déclasser le loup afin qu'il ne soit plus en espèce strictement protégée, ce qui facilite les tirs au niveau administratif. Alors, de part et d'autre, on entend même les associations, enfin certains membres des associations environnementalistes dire oui, c'était nécessaire, il fallait en effet procéder au déclassement du loup, mais attention, il ne faut pas tomber dans une logique comptable où on dit on tire un loup, on tire n'importe quel loup, mais plutôt dans une logique comportementale, on tire le loup qui menace les troupeaux.
Dans tous les cas, je salue l'évolution des positions d'un certain nombre d'acteurs sur ce dossier qui nous expliquait le contraire de ce qui est dit aujourd'hui, c'est-à-dire il ne faut pas déclasser, il n'y a pas de problème de population lupine dans les Alpes, et même en France, et l'espèce est toujours en grande difficulté d'existence. Donc ça, c'est un point favorable. Le deuxième point sur lequel il faut rester vigilant, c'est qu'on est sur un traité international, donc la position de l'Union européenne est maintenant claire. Il faut maintenant que la Convention de Berne soit effectivement modifiée. J'attends de voir, ça devrait se faire normalement dans les prochains mois. J'attends quand même de voir cette nouvelle étape pour pouvoir ensuite décliner plus spécifiquement une réflexion stratégique pour savoir de quelle manière on prélèverait les loups à prélever.
Les Jeux Olympiques 2030, un vaste sujet. Est-ce que vous comprenez qu'on appelle à la prudence budgétaire dans un contexte de rigueur budgétaire ? C'est-à-dire que on a du mal à trouver des finances pour l'éducation, pour les hôpitaux, pour la santé, etc. Et qu'on va demander au gouvernement, très prochainement, de signer cette garantie financière, c'est-à-dire de signer un chèque en blanc. S'il y a des dettes, la France s'engage à les éponger. C'est vrai que ça paraît paradoxal quand même dans ce contexte.
Je ne vois aucun paradoxe à l'idée d'imaginer que sur l'ensemble de l'arc alpin, l'État puisse garantir à hauteur de 2 milliards d'euros, parce que c'est à peu près le chiffre envisagé, un chemin de développement territorial pour les 5 prochaines années. Restons raisonnables, 2 milliards évidemment c'est une somme, quand on a 3 200 milliards de dettes cumulées, 2 milliards sur 6 ans pour pouvoir porter un chemin de développement équilibré sur un projet qui permettra de reparler de la montagne, remettre à l'agenda des préoccupations d'aménagement du territoire, de développement économique, de services publics, de mobilité, de transition également climatique, d'innovation territoriale sur une période de 6 ans, 2 milliards d'euros. Franchement, je pense que ça vaut le coup.
Et au niveau de l'environnement ?
Sur la question environnementale, il faut analyser le dossier tel qu'il est, pas tel que certains le subliment ou le caricaturent. À ce jour, dans le dossier, on a une reprise essentiellement des sites existants sur l'héritage d'Albertville, à Méribel, à Courchevel. Et pour les Hautes-Alpes, l'élément majeur de dépenses envisagé, c'est le maintien du Fort des Têtes dans un état qui n'existera plus si rien n'est fait sur le Fort des Têtes, puisque c'est une propriété d'État aujourd'hui, et que c'est un patrimoine historique classé UNESCO Vauban depuis des années, qui tombe en ruine. Donc il ne s'agit pas de bétonner la plaine de Blesse-Chamandrin, il s'agit de rénover un bâtiment qui est historique, qui fait partie du paysage des Hautes-Alpes, qui est propriété de l'État, qui n'entretient pas. Et on a une opportunité de pouvoir investir sur ce Fort des Têtes pour le rénover, pour en faire le village olympique, certes, mais là aussi toujours le chemin, la notion d'héritage, pour demain en faire un espace de saisonnier, pour en faire de l'accession à la propriété pour un certain nombre de jeunes qui ne trouvent pas du logement dans Briançonnet, c'est une chance unique. Et je pense qu'il faut la jouer pleinement. Ensuite, sur les Hautes-Alpes, il y aura effectivement une petite adaptation du champ de neige à Montgenèvre pour accueillir les épreuves qui sont envisagées, mais qui sera compensée, puisqu'on a effectivement un peu de déboisement à faire. Et sur le site, de ce que j'en sais, de la salle des Alpes, Serre Chevalier, on a essentiellement le bas de piste qui est déjà équipé et il s'agira de mettre en fait la capsule de l'événementiel sur le site. Donc on a l'opportunité de renforcer un message fort sur la montagne française, sur les Alpes du Sud, avoir la région Provence-Côte d'Azur Sud qui devra de toute façon accompagner fortement les dossiers des Hautes-Alpes et avoir un projet qui puisse concerner toutes les Hautes-Alpes puisque je le dis et je le réaffirme fortement, ce projet évidemment se réalisera dans le Briançonnais mais il concerne toutes les Hautes-Alpes puisque la logistique de base de toute l'économie des Hautes-Alpes se trouve à Gap, avec les services, avec l'administration, avec un grand nombre de prestataires, un grand nombre d'entreprises de TPE. Et on aura également un travail à faire pour renforcer la mobilité en chemin de fer. Et on a effectivement un travail d'accélération à faire pour rendre plus confortable, plus sécuritaire la RN 94 qui aujourd'hui est gérée par l'État et qui est probablement un des axes les plus difficiles pour notre département. C'est la colonne vertébrale de diffusion vers l'Italie et qui n'est pas au niveau de ce qu'on devrait avoir pour une mobilité du quotidien.
Gérée par l'État, peut-être bientôt par le département.
Mais ça fait partie aussi des enjeux puisqu'il y aura une loi d'exception au JO dans laquelle j'espère pouvoir intégrer un amendement permettant à l'occasion de ces JO de pouvoir accélérer le transfert des routes nationales vers le département
tout en ayant
effectivement une discussion discussion à avoir, qu'on avait déjà eu avec le ministre Vergriete, le ministre des Transports sortant, savoir comment on gère effectivement la situation du pont de Savines, qui est un sujet de préoccupation majeure et essentielle. Et de toute façon, ce travail devra être fait, puisque le seul axe à partir du sud pour accéder au cluster de Briançon pour les JO, c'est bien la RN 94.
On refait un nouveau pont de Savines ?
Le pont de Savines à gérer, mais aussi accélérer les travaux, c'est déjà engagé sur Tallard, de sortie de l'autoroute A51, et enfin répondre aux aspirations de Michel Frison, maire de La Roche-de-Rame, et de son équipe, après concertation publique, accélérer les phases d'aménagement de la traversée de La Roche-de-Rame pour sécuriser d'abord la vie des gens, aménager le quartier et faire en sorte qu'on puisse faire sauter ce mauvais bouchon et ce mauvais passage sur la RN 94.
Parlons du congrès des maires. Comment vont les maires aujourd'hui ? Est-ce que l'ambiance est plutôt morose, comme certains chefs d'entreprise, ou est-ce qu'on y voit un peu plus clair ?
Les maires sont dans une situation où ils devraient être au cœur de la programmation et de la réalisation de ce qu'ils avaient projeté durant ce mandat. On est effectivement un peu comme tout le monde, à la croisée des chemins. On a un débat sur le poids des finances publiques. Dans ce débat sur le poids des finances publiques, des déclarations pour moi scandaleuses du ministre sortant de l'économie et des finances, qui a pointé la responsabilité des collectivités locales. La principale source de déficit, c'est les dépenses de l'État et les dépenses de la sécurité sociale. Et à l'intérieur de la sécurité sociale, 50% du déficit de la sécurité sociale relève des retraites. Donc il faut bien effectivement travailler la question des retraites, probablement d'une autre manière que ce que ça avait été travaillé. Je rappelle que je n'ai pas voté la réforme des retraites au Sénat, mais je pense qu'une logique de points avec un peu plus de souplesse et un élargissement de l'assiette devrait nous permettre de pouvoir faire face à ce type de déficit.
Bon, pour vous, on travaille plus longtemps quand même. Plus souple, mais plus longtemps.
Dans tous les cas, quand on vieillit globalement plus longtemps dans ce pays, et que le principe de la retraite, c'est verser pour la plupart des cotisations de celles et ceux qui sont actifs au moment où on touche sa retraite. À un moment, il y a une arithmétique, mais c'est pas parce qu'il y a une arithmétique qu'on doit faire n'importe quoi. Je pense qu'il y a un sujet sur les carrières longues, je pense qu'il y a un sujet sur notamment les retraites des femmes qui ont des carrières beaucoup plus chahutées, liées aussi à la maternité, hein, faut dire les choses comme elles sont, et également on a une problématique sur le travail des anciens. On peut mettre la retraite à 70 ans, s'il n'y a plus d'employabilité dans ce pays à 62 ans, on peut mettre une retraite même à 75 ans, on n'aura pas pour autant plus de masse de salariés qui travaillera. Or, il faut effectivement élargir l'assiette pour qu'on ait plus de cotisations, pour avoir plus de mutualisation et plus de solidarité intergénérationnelle.
Et l'eau, c'est toujours un sujet qui fait bouillir les maires.
Oui, dans tous les cas, on a toujours la casserole sur le feu. La proposition que j'ai faite de loi au Sénat sera à l'ordre du jour en séance le 17 octobre. L'objectif, c'est de rendre facultatif la compétence eau et assainissement. On était sur la version précédente du texte, sur une recherche de compromis avec le gouvernement de Gabriel Attal. Là, je pense que la situation politique nous permet probablement d'aller un peu plus loin que ce qu'on avait imaginé, en faisant en sorte de vraiment laisser le choix aux maires, aux présidents d'intercommunalité, de s'organiser comme ils le souhaitent dans leur territoire, en fonction des spécificités territoriales.
Et transfert, donc, oui, mais au choix.
Pardon ?
Transfert, oui, mais au choix.
Au choix. Et le choix également, éventuellement, de faire en sorte qu'un CIVU, un syndicat à vocation unique, puisse se constituer dans les bassins cohérents, voire même que l'intercommunalité dise, parce que notre territoire est spécifique, on prend la compétence, mais ça doit rester une liberté locale, et ça doit être un choix fait d'abord par les élus, avec un souci d'un maintien d'une qualité d'eau, de la sécurité des réseaux, et également d'un prix qui soit acceptable pour les usagers, parce que la question du pouvoir d'achat commence aussi par les factures d'énergie et les factures d'eau et d'assainissement.
Merci beaucoup Jean-Michel Arnaud d'avoir été avec nous ce matin sur Alpin, sénateur des Hautes-Alpes.